Alors après que Jésus soit ressuscité, il s'est montré à un certain nombre de personnes et il a eu aussi des conversations profondes avec ses disciples et il y en a eu une qui est relatée dans l'évangile de Jean au chapitre 20 qui est extraordinaire et que j'aimerais que nous regardions. Évangile de Jean chapitre 20. Excusez-moi, je savais bien qu'il y avait un problème. Évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Alors, on est obligé pour comprendre un peu mieux ce dialogue, d'apprendre que le mot « aimer » là, le verbe « aimer » a deux mots grecs dans l'original. Il y a le mot « agapé » dont on parle souvent, hein, l'amour divin, l'amour gratuit, l'amour de Dieu. Et puis, il y a l'autre mot que les Grecs utilisaient, l'amour humain, l'amour fraternel, l'amour d'amitié, qui est philéo en grec. Et donc, dans cette conversation, Jésus commence par l'amour de Dieu. Il dit, « Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu ?» Et Pierre répond en disant, « Oui, tu sais que je t'aime de l'amour humain, philéo. » Alors Jésus répète, « Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu ?» Oui, tu sais que je t'aime de l'amour humain. Et la troisième fois, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes de l'amour humain ? Il descend, si on peut dire, au niveau de Pierre. Et c'est pour ça que Pierre aussi est attristé. Il voit que le Seigneur est obligé de descendre un petit peu ses attentes en lui disant, est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi le Seigneur lui demande trois fois, est-ce que tu m'aimes ? C'est évidemment parce que Pierre a renié trois fois le Seigneur. Mais ne jetons pas la pierre à Pierre si vite. Essayons de nous mettre à la place des disciples. Il y avait cette angoisse qui montait d'abord pendant le repas de Pâques avec le Seigneur. Hein. Jésus a dit « Il y a un traître parmi nous ». Et déjà, ça a institué une sorte d'angoisse, d'inquiétude. « Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui vais te trahir ?» Et puis Jésus dit « Celui qui mettra la main dans le plat, c'est celui qui va me trahir. » Et il s'avère que Judas a mis la main dans le plat et il est parti vendre la peau de Jésus pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Ensuite, ils vont dans le jardin et là, Jésus a des angoisses et il dit « Venez prier avec moi ». Il dit Pierre, à Pierre, Jacques et Jean, qui étaient ses trois plus proches disciples, « Venez prier ». Et lui, donc il accompagne un peu dans le jardin à l'écart sous les oliviers là, du jardin de Gethsémané, ces oliviers magnifiques. Et Jésus va un peu plus loin pour prier seul. Et il a des grumeaux de sang qui perlent de son front tellement il est sous pression parce qu'il sait qu'il va mourir pour les péchés de l'humanité. Et il revient et il trouve les disciples endormis. Ils n'ont pas pu veiller. Et il les réveille, il dit « Mais vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi ?» Les disciples étaient chaos. Ils n'étaient pas en état de lutter. Ils étaient déprimés, découragés, abattus, et surtout Satan, l'ennemi de Dieu, était à l'œuvre déjà. Et puis vient le moment de l'arrestation, ils sortent du jardin, et une foule avec des soldats vient arrêter Jésus, Judas à sa tête, qui vient faire un baiser de traître au Seigneur. Et là, la Bible dit que tous les disciples se dispersèrent. Mais elle nous précise que Pierre, lui, est resté de loin, il a suivi et il a vu où on amenait Jésus. Et il était là à l'extérieur de la maison du souverain sacrificateur Caïphe. Et il regardait, il écoutait ce qui se passait. Et un moment, quelqu'un l'interpelle et dit « Mais toi aussi, tu as l'accent galiléen, tu dois être de Galilée aussi. » Parce que les Juifs de Galilée et les Juifs de Judée, ce n'était pas la même chose. Hein. C'est comme les Parisiens et les Marseillais. Vous reconnaissez l'accent déjà, hein. Et puis, ce n'est pas la même mentalité. Et donc, « Toi aussi, tu es avec Jésus ?» Il dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Donc, Pierre, il est le seul, quelque part, qui a eu le courage, quand même, ou l'amour pour son Seigneur, de le suivre, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont lui faire, est-ce qu'il va se défendre, comment ça va se finir, tout ça. Mais en même temps, il s'est mis en danger, et le voilà qui commence à renier, à dire « Non, je ne connais pas cet homme. » Et puis on lui demande une deuxième fois « Non, je ne connais pas. » Une troisième fois « Non, non. » Et là, le coq chante. Et là, il se rappelle cette parole de Jésus. Jésus lui avait dit « Le coq ne chantera pas trois fois que tu ne m'aies renié. » Ou « Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Pardon. Et l'Évangile précise qu'au moment où il renie pour la troisième fois, son regard croise celui de Jésus. Et là, ça a dû lui briser le cœur, non au Seigneur, mais à Pierre aussi. On peut se mettre à la place de Pierre. Ça m'est arrivé de renier le Seigneur. Pas forcément exactement dans les mêmes circonstances, évidemment. Je n'ai pas forcément dit « je ne connais pas Jésus ». Mais on peut renier le Seigneur de différentes façons. Et le Seigneur ici, il lui dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il veut le rétablir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il lui répond « Paie mes agneaux », c'est-à-dire « Occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mes agneaux. » Et Pierre est devenu un serviteur de Dieu efficace et fidèle. Hein. Il n'était pas le pasteur de l'église de Jérusalem, c'était Jacques, mais il était un homme clé, hein, une fondation de la première église. Le Seigneur l'a rétabli, mais il lui a dit, m'aimes-tu de l'amour divin? Il a dit, je t'aime d'un amour humain. Et c'est plus tard que Pierre, après le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, va être un nouvel homme, avec un nouveau courage. Et là, il va faire face à cette foule, hein, réunie à la Pentecôte, il va leur dire, vous avez crucifié Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui avait renié trois fois alors qu'on lui demandait simplement « Est-ce que tu viens de la Galilée ?» On ne lui demandait pas plus. Là, il dit en face « Vous avez crucifié le Seigneur, mais Dieu l'a ressuscité. » Il affronte cette foule. Et les gens se convertissent. Hein. Il y a eu 3000 âmes sauvées en une journée sous la prédication de Pierre. Il y a eu un changement. Et nous aussi, nous pouvons vivre une expérience similaire. Mais la question qu'on se pose... C'est « Est-ce que moi aussi j'aime Dieu ?» Si Jésus me posait la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Est-ce que je dirais « Tu sais que je t'aime comme je peux, philéo ?» Ou est-ce qu'on aurait cet amour du Seigneur, vraiment ? La révélation de la Bible est vraiment unique parce que le premier commandement de la Bible, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'est pas dit tu vas obéir ou tu vas avoir peur, tu vas craindre, tu vas servir. Il dit tu vas aimer. On aime Dieu. C'est un commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais on se dit mais comment puis-je aimer un Dieu que je ne vois pas ? On peut aimer ses parents ou sa femme, son mari ou ses enfants. On les voit, on les touche. Mais Dieu, je ne le vois pas. Pierre dit que c'est possible. Dans son épître, au chapitre 1, verset 8, il dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Il dit « Vous aimez Dieu sans l'avoir vu. » Donc c'est possible, on peut aimer le Seigneur sans l'avoir vu. Comment c'est possible? Mais c'est un peu comme quelqu'un qui est en voyage. Vous le connaissez, vous connaissez cette personne, mais elle est partie en voyage. Vous avez des coups de fil, peut-être de Skype, n'est-ce pas? Vous avez des lettres, des emails, vous lui échangez avec cette personne, mais elle n'est pas là. Vous ne la voyez pas. pourtant vous l'aimez à distance. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que vous aimez à distance? Plein, hein, je pense. On ne peut pas tout le temps voir les gens qu'on aime. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu n'est pas visible en personne. Nous le verrons lorsque nous entrerons dans sa gloire. Nous le verrons de nos yeux, dit la Bible. Mais en attendant, quand même, Dieu nous a laissé plein de choses. Il nous a laissé sa création. Est-ce que vous aimez regarder les émissions sur la nature? Certains sont fans de ça. Mais même sans regarder les émissions, allons voir la nature, tout simplement. Directement. Pour les Parisiens, c'est plus compliqué. On a des arbres synthétiques et des oiseaux malades. Mais on a quand même des jardins et on peut sortir un petit peu voir la nature. Là, on voit la création de Dieu et dans cette création, on voit l'amour de Dieu. Il y a une paix. Il y a quelque chose qui se dégage. Même quand il y a la tempête, il y a quelque chose qui se dégage. Un amour de cette création. Les couleurs de la création. J'ai été frappé l'autre jour de voir comme les couleurs de la création vont bien ensemble. Il n'y a pas de faute de goût chez Dieu. Il y a le bleu, le vert qui se fondent bien avec les oranges, les mauves du ciel. En ce moment, il y a des ciels magnifiques avec les nuages. On voit l'amour de Dieu qui a fait une création pour nous magnifique. Et puis Dieu nous a laissé aussi la vie. Nous avons la vie. D'être, de vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'exister. D'avoir le cœur qui bat, d'avoir le cerveau qui peut penser. C'est un cadeau merveilleux d'avoir la vie. Dieu nous a laissé aussi sa grâce. Il est un Dieu de grâce. Dieu n'est pas un Dieu qui punit, poursuit les gens pour les punir en permanence. Dieu est un Dieu qui est patient, qui est gracieux, qui veut pardonner. Bien sûr, il est juste aussi. Et il y a un jour, il y aura le jugement et ce sera infaillible. Et personne n'échappera à ce jugement qui ne s'est pas repenti. Mais ceux qui se sont repentis, qui ont reconnu leur faute et qui se sont tournés vers Dieu, seront pardonnés, sont pardonnés. Dieu nous a laissé aussi la prière. N'est-ce pas merveilleux, la prière? Il aurait pu simplement dire, voilà, moi je suis au ciel, vous êtes sur la terre, je vous ai laissé mes instructions, débrouillez-vous. Bon, on aurait fait ce qu'on aurait pu. Mais la prière, ça change tout. Par la prière, on peut dire, mais Seigneur, je ne comprends pas la parole. Seigneur, je ne comprends pas tes indications. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu exauces. La prière, c'est ce contact invisible avec Dieu. À la fois, on a le contact et en plus, on peut faire bouger le bras de Dieu. Quand on intercède pour les autres, Dieu exauce. Dieu répond quand on prie dans sa volonté. Donc, on peut aimer Dieu sans le voir. On peut avoir une relation profonde avec Dieu sans le voir. C'est peut-être mieux que si on le voyait. Quand on est aveugle, on est obligé de se reposer sur d'autres sensations que la vue, forcément. Il y a l'odeur, l'odorat, l'ouïe. Et puis, j'aime bien comme les aveugles touchent le visage. Hein? Et les aveugles sont beaucoup plus réceptifs à des choses que nous n'imaginons même pas. Ils peuvent sentir une émotion dans le timbre de la voix, dans les gestes. Ils peuvent entendre, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment tu sais? Tu ne vois rien. Oui, mais je le sens. Et de la même façon, le fait de vivre par la foi nous permet de connaître Dieu d'une façon spéciale. Parce qu'on compte sur lui, on attend ses réponses. On dit, Seigneur, je ne te vois pas, mais je crois en toi, je t'aime. Dieu nous a laissé aussi la Bible, bien sûr, qu'il a inspiré, révélé, répandu, mais il a aussi laissé son esprit, qui est appelé le consolateur. Le mot qui traduit le mot consolateur, c'est quelqu'un qui est à vos côtés. C'est plus que consolateur. C'est quelqu'un qui est à votre côté, qui vous défend, pour ça qu'on dit aussi avocat dans certaines traductions. Qui vous console, qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous accompagne. C'est ça le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit qu'on peut aimer le Seigneur et connaître l'amour de Dieu. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On sait que Dieu nous aime parce qu'on a son Esprit. Et son Esprit dit à notre esprit, Père, on sait qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on a cru en lui. Notre cœur humain n'aime pas Dieu naturellement. Et ça, je pense qu'on s'en est tous rendu compte. On est plutôt rebelle à Dieu naturellement. Quand j'ai entendu parler de Dieu, ça crée en moi une rébellion. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qui sait? Pourquoi? Et il ne peut pas me laisser tranquille. Moi, je veux mener ma vie. Et c'est ça, la rébellion du cœur humain. Quelqu'un qui dit, oh, moi, depuis mon enfance, que je suis né, j'aime Dieu. Non. Le cœur humain n'aime pas Dieu. Il est en rébellion, en révolte, parce qu'il veut être son propre Dieu. Mais on peut découvrir l'amour de Dieu et commencer à aimer Dieu lorsqu'on reçoit un nouveau cœur, la nouvelle naissance, lorsqu'on se tourne vers Dieu. On commence à apprendre son amour. Et comment apprend-on son amour? C'est quand on découvre que Dieu nous aime d'abord. C'est comme ça qu'on peut commencer à aimer Dieu, quand on découvre que Dieu nous aime en premier. Je lis dans l'épître de Jean, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Épître aux Romains, « Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Quand on découvre que Dieu nous aime, nous des pécheurs, des impies, des rebelles, qui nous aime gratuitement, de cet amour qu'on n'imaginait pas, l'amour agapé. Nous, sur la terre, on connaît quoi? On connaît un semblant d'amour qui passe souvent par de la sexualité mal placée, et c'est un amour fugitif. « Ah, oh, je ressens un truc, ah oh, oui, j'ai un coup de foudre, et puis voilà. » Mais l'amour de Dieu, c'est tellement plus grand, plus fort, plus profond. Et quand on découvre que cet amour, c'est pour moi, humble, horrible, indigne pécheur, alors là, on peut commencer à aimer Dieu en retour, dire, mais Seigneur, c'est incroyable. Quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous méprise par des paroles, qu'est-ce que vous ressentez? La haine, du dégoût, de la colère. Quand quelqu'un vous dit, je t'aime, qu'est-ce que vous ressentez? Quelque chose de... Ça fait du bien, quelqu'un vous dit « je t'aime ». Vous n'aimez pas recevoir du courrier de vos amis, de vos parents. On le met « ah, qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Ah, on pense à toi, ah, ça fait du bien ». Mais de savoir que Dieu me dit « je t'aime ». Toi, mais moi, mais pourquoi moi ? Parce que toi, je te connais, je t'aime. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'as rien fait, même tu as fait tout le contraire de ce qu'il fallait. Mais je t'aime quand même. Quand vous ressentez ça, quand vous entendez ça, quand vous comprenez ça, ça vous donne un amour en retour vers le Seigneur. Face à cet amour, on peut soit détourner le regard, ça existe. Hein. Il y a des gens, vous pouvez leur parler de que Dieu les aime, ils m'en fichent, je suis indifférent. C'est terrible d'être indifférent à cet amour gratuit de Dieu. Et puis il y a ceux qui disent... Mais je veux en savoir plus, dites-moi, pourquoi Dieu m'aime? Pierre, où est-ce qu'il en était dans son amour? Lorsque Jésus avait dit, l'un de vous va me trahir, Pierre a dit, si tous te reniaient, moi, je ne te renierai pas. On imagine le ton un peu Cyrano de Bergerac, hein, un ton théâtral. Il y croyait à fond, Pierre, que jamais il ne renierait le Seigneur. Ça, c'était quoi? C'était l'amour humain, un peu d'orgueil, peut-être beaucoup, la présomption, comme on dit, c'est-à-dire il était présomptueux, il pensait qu'il allait tout maîtriser. Et puis face à l'épreuve, parce qu'il s'est trouvé devant une épreuve qu'il n'imaginait pas. Et cette épreuve a l'air petite quand il suffit, c'est une femme, hein, auprès du feu, ils sont en train de se chauffer là, de nuit. Une femme lui dit, tu ne serais pas galiléen toi aussi? Franchement, c'est pas une épreuve terrible. On lui a pas mis un couteau sous la gorge en disant « dis que tu es... » Non, une femme qui lui pose une petite question. Et là, il s'effondre. Le Pierre, qui ne renierait jamais, il s'écroule devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Pierre avait un amour humain, mais pas un amour divin. L'amour humain a des paroles, mais pas des actes. L'amour humain a des paroles. Je t'aime, je suis prêt à tout, je ferai tout ce que tu veux. Et puis, devant les actes, il n'y a plus personne. L'amour divin, ce sont des actes. Quand Dieu nous a aimés, il a prouvé en donnant sa vie. Ça, c'est l'amour agapé. C'est pour ça que Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes agapé? Et Pierre, il devait dire, mais il faut être sincère, il faut être honnête. Il était honnête, Pierre. Non, je ne peux pas dire que je t'aime agapé parce que pour l'instant, j'ai prouvé le contraire. Donc, je ne vais pas te dire oui. Et Pierre, il a prouvé après qu'il aimait Jésus de l'amour agapé. Pierre est allé jusqu'à la mort pour sa foi, pour son sauveur. Il est allé en prison plusieurs fois. Hein. Il a été battu pour l'évangile. Mais il a continué jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à son dernier souffle, à aimer le Seigneur agapé. C'est un peu pareil aussi dans le couple. Beaucoup de couples lâchent et se détruisent ou s'écartent, se divisent et divorcent parce que, au lieu d'avoir un amour d'acte, un amour d'engagement, un amour divin, ils ont un amour humain. L'amour humain, c'est, encore une fois, des paroles. Je t'aime, je suis amoureux, super, magnifique. C'est une émotion, un sentiment. Ah, oh, je ressens de l'amour. Et quand on est nouveau amoureux, c'est vrai, c'est fort, ça déborde. Et puis vient le temps, et vient la vie, et vient les épreuves, et il y a des tentations, il y a d'autres personnes qui passent devant vos yeux. Et, ah, pas mal aussi, là. Bon, ouais. Et c'est là qu'on voit votre amour. Si vous avez l'amour humain, il va dire, bah, y en a qui sont mieux que toi, je les aime bien aussi. Et puis, au bout d'un moment, on va dire, mais c'est plus comme avant entre nous. T'es plus pareil, tu vieillis, tu grossis, etc. Je caricature un peu. Et on dit, bah, finalement, je ne ressens plus d'amour, alors séparons-nous. Beaucoup de couples finissent comme ça. Je ne ressens plus rien pour toi. Et ce n'est pas qu'ils disent « je ne ressens plus, séparons-nous », c'est que comme ils ne ressentent plus d'amour, ils ressentent quoi à la place? Il faut remplacer toujours. Hein. Ça commence à être des récriminations et finalement de la haine. S'il n'y a plus d'amour dans un couple, comme on vit ensemble tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit tous les défauts de l'autre. Ces défauts qu'on supportait, qu'on aimait parfois. On ne les supporte plus. Le moindre truc, mais... T'as vu le bruit que tu fais en mâchant? J'avais jamais remarqué que tu faisais du bruit en mâchant. Oui, mais quand on n'aime plus quelqu'un, le moindre détail devient insupportable. Et le Seigneur nous demande d'avoir un autre amour que ça. Le jour où on se marie, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'engagement dans le mariage, on dit « je m'engage à t'aimer ». Je m'engage à t'aimer dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la maladie, dans la vieillesse, jusque dans la mort, je m'engage à t'aimer. C'est-à-dire, s'il y a une tentation, je vais dire non, j'aime mon mari, j'aime ma femme. S'il y a une épreuve, une maladie, non, je serai à tes côtés, je t'aime. Maintenant, appliquons-le avec notre amour pour Dieu. Dans la foi, il y a des épreuves, il y a des tentations. Le monde offre des tentations, il dit « Ah, mais tu pourrais faire ci ou je te donnerais ça » et il nous propose des idoles. Notre cœur a besoin d'idoles. Alors le monde nous en propose. Satan, qui est derrière, hein, qui est le prince de ce monde, il nous propose plein de choses pour nous éloigner de Dieu. Et là, le chrétien, il y a un moment, il doit choisir, il doit dire « Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que j'aime le monde ?» On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu, la Bible le dit, c'est inimitié entre les deux. Et c'est là que l'amour véritable se manifeste. Est-ce que j'aime Dieu vraiment? Alors quand il y a une tentation qui va venir, je vais dire, arrière de moi, Satan. J'aime Dieu. C'est lui, mon Seigneur. L'amour se révèle justement dans ses épreuves et dans ses tentations. Est-ce que je reste attaché au Seigneur, même dans l'épreuve? Je pense à Job. Et Job... Il est connu pour sa patience. Job a tout perdu et il est tombé malade, mais comme personne. Eh bien, la Bible dit que dans toutes ces choses, il n'a jamais renié Dieu. Il a douté, il a questionné Dieu, il dit « je ne comprends rien, pourquoi il m'arrive tout ça ?» Mais il n'a jamais renié Dieu. Il était attaché à Dieu. L'épreuve ne l'a pas éloigné de Dieu. C'est ce que Satan voulait avec Job. Il voulait séparer Job de Dieu. Il voulait que Job dise « Mais ça ne sert à rien de croire, puisque regarde tout ce qui m'arrive, tous mes problèmes, depuis que j'ai la foi, depuis que je sers Dieu, ça ne sert à rien. » Il voulait que Job renie Dieu et il a échoué. Job est une victoire magnifique de la foi et de cet amour. C'est un exemple pour nous. Nous aussi, quand nous sommes malades, nous aussi, quand nous avons de grosses épreuves dans la vie, on n'aura jamais autant que Job. Hein? Donc, regardons à Job. Nous pouvons rester attachés au Seigneur. Seigneur, même si on me pousse à te renier, moi je ne te renierai pas, parce que je t'aime. Mais vous dites, oui, mais peut-être que je serai comme Pierre, je dis, je ne te renierai pas, et puis... Justement, c'est ça l'intérêt de cette histoire de Pierre. C'est que avant d'avoir l'amour par le Saint-Esprit, Pierre avait un amour humain qui avait des belles paroles mais qui ne tenait pas. Mais après, il avait un amour véritable qui aimait Dieu même dans l'épreuve. Et c'est ça que Dieu veut que nous ayons, cet amour véritable, cet amour agapé. Qu'est-ce qui révèle un chrétien aime vraiment Dieu? Il y a deux signes principaux, il y en a d'autres, mais j'aimerais mentionner ceux-là. Le premier, c'est qu'on aime nos frères et sœurs dans la foi. 1 Jean 4, verset 9, 19, pardon. Je vous lis ce verset. Et c'est un verset que nous n'aimons pas trop, parce que ça nous dérange un peu. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est facile de dire « j'aime Dieu ». Ou par exemple, des chrétiens qui vivent dans le péché, et ils s'accommodent avec leur péché, ils vivent dedans, et même ils ne se sentent plus coupables ni rien. Et puis quand on leur dit où tu en es, je ne suis pas un bon chrétien, mais j'aime le Seigneur. Hein. Ben non. Non, non, si tu vis dans le péché sans t'en sortir, tu n'aimes pas le Seigneur. Si tu dis j'aime le Seigneur, mais alors tel ou tel frère dans l'église, je ne peux pas le saquer. Hein. On ne peut pas le voir en peinture, en tableau, en rien. Je dois me remettre en question. Vous dites, oui, mais c'est juste un ou deux, là. Oui, mais c'est un ou deux, c'est des frères dans la foi. Et ça doit se régler devant le Seigneur, dans l'amour, dans la prière. Si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mes frères, je n'aime pas Dieu, je me mens à moi-même. Et c'est pour ça que cette question, est-ce que tu m'aimes, elle a beaucoup d'implications. Nous, on va dire, ben oui, oui, je t'aime, Seigneur. Et bon, ben voyons. Voyons voir. Et puis, le deuxième test, c'est Jean 14, 15, qui dit, « Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si j'aime le Seigneur, je vais obéir à ce qu'il me dit. Quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'il nous dit. Je reviens dans le couple. Si tu dis « mon chéri, je t'aime », est-ce que tu pourrais aller me chercher le pain ou faire la vaisselle ? Ah non, non, il n'est pas question que je fasse quoi que ce soit à la maison. Oui, mais il y a 5 minutes, tu as dit « je t'aime ». Ah oui, oui, je t'aime de tout mon cœur. Alors, bien sûr, on ne doit pas utiliser ça comme un chantage, mais ça doit se voir si j'aime mon conjoint. Il y a une soumission quelque part, mutuelle dans l'amour, hein. Ce n'est pas une soumission servile, c'est une soumission volontaire. J'aime mon conjoint, je me mets en dessous pour lui montrer mon amour. Je l'aide, je viens à son côté, je le soutiens. Et de la même façon, dans mon amour avec Dieu, j'obéis à Dieu. Si vous lisez le psaume 119, hein, verset 47, il dit « Je fais mes délices de tes commandements ». J'aime bien ce verset parce qu'entre commandement et délices, il y a un gouffre. Normalement. Commandement, ça veut dire un truc pas bon à manger. Délices, ah, c'est gâteau, sucre, chocolat, glace, tout ce que vous voulez. Mais commandement, c'est plutôt haricots verts. Hein? Bon, voilà. Et David, il dit, je fais mes délices de tes commandements. Et il ne dit pas qu'une fois dans le psaume 119, il le dit 11 fois. J'aime tes préceptes. Pourquoi il aime tellement les commandements? Il est masochiste ou quoi? C'est parce qu'il aime celui qui donne les commandements. Il aime Dieu. Pourquoi les commandements sont pénibles pour beaucoup de chrétiens? Parce qu'ils n'aiment pas vraiment celui qui les donne. Pourquoi les commandements sont pénibles à la maison avec papa, maman? Parce que je n'aime pas assez mes parents. Si j'aimais vraiment mes parents, je leur obéirais. C'est vrai, l'amour et l'obéissance sont liés. Pareil avec son patron. Vous dites que je ne me demandais pas d'aimer mon patron quand même. On aime tous les hommes, y compris notre patron. Et dans l'amour, il y a un respect, il y a une soumission, une obéissance. Et l'amour avec Dieu, c'est pareil. La différence entre Pierre et Judas, ils ont renié tous les deux. Mais Judas, il aimait l'argent plus que Jésus-Christ. Pierre, il aimait Jésus-Christ plus que tout, mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais quand il est revenu tout de suite au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je suis à tes côtés. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Mais il a suivi le Seigneur jusqu'au bout. Judas, il est allé se pendre. Alors, Dieu ne veut pas qu'on soit des Judas, des faux disciples, des gens qui disent je t'aime, mais par derrière, on aime autre chose. On aime le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier, pour tout ce qu'il nous a donné. On l'aime pour lui-même parce qu'il est un Dieu extraordinaire, un Dieu saint, un Dieu aimant, un Dieu de grâce. Plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Et ce qui est encourageant, c'est que Christ a relevé Pierre, parce qu'on pourrait se dire, oh, moi je manque d'amour pour Dieu, ça c'est sûr. Eh bien, ce n'est pas fini pour toi. Tu peux revenir au Seigneur. Tu peux lui dire, Seigneur, donne-moi ton amour agapé. Moi, j'ai mon amour humain, mais donne-moi cet amour divin par le Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je veux t'aimer, toi, pour toi-même. Et là, on sera un chrétien digne. Pierre, m'aimes-tu? Et on peut mettre chacun notre prénom. Oui, tu sais que je t'aime. Est-ce que je t'aime de tout mon cœur? Est-ce que je t'aime de toute ma force? Est-ce que je t'aime de toute ma pensée, selon le premier commandement? Que le Seigneur nous touche et nous bénisse pour cela. On va terminer avec un cantique.